la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Me voilà à nouveau rue Sainte-Catherine chez Pamela, qui est l'artiste Runspace bien connue maintenant, et je retrouve aussi Anna Mescari, que j'avais rencontré au Carré d'Art. C'était en septembre, à la fin d'une résidence. Et vous voilà exposée donc à Pamela. Alors, on va d'abord faire avec Margot. Bonjour Margot.
Bonjour.
J'ai pas dit bonjour à Anna.
Bonjour. Bonjour.
Anna. Bonjour Margot. Donc, nous rappeler un petit peu pour nos auditeurs ce qu'est Pamela. Et puis Anna inaugure une nouvelle formule.
Oui, absolument. Alors, Pamela, donc, c'est un artist run space, c'est-à-dire un lieu géré par et pour les artistes. Donc, on est six membres artistes, ni moi, ni moise, à Pamela. Et on fait donc des expositions. Et donc là, nous avons créé un nouveau format qui s'appelle Souple. Donc là, ce soir, c'est la première édition. Et donc, nous avons invité Anna Mescari, puisqu'elle a exposé déjà au Carré d'Art. Donc, finalement, ça fait suite à cette résidence, la production de son ouvrage Flying Carpet. Et parce que nous avons collaboré également avec elle à Riga Project, qui est sa résidence d'artiste qu'elle a montée à Saint-Pierre-de-Trévisy dans le Tarn. Nous l'avons invitée avec donc moi-même, Margot Fontaine et Audrey Martin. Qui sont les commissaires de ce projet. Et nous avons sélectionné deux de ces œuvres, enfin une œuvre en deux, vous le découvrirez, que nous montrons dans la vitrine. Donc Souple, effectivement, c'est ce nouveau format. L'idée est d'inviter une artiste, un artiste ou un collectif d'artistes dans un format qu'on dit souple, c'est-à-dire assez simple, à présenter une œuvre, voilà, ou un ensemble d'œuvres
en vitrine
de Pamela. Donc on fait quand même un vernissage, mais l'idée c'est qu'en fait on n'ait pas besoin d'entrer à l'intérieur de Pamela, puisque c'est aussi des ateliers d'artistes, et donc on puisse faire que les passants puissent découvrir une œuvre à chaque fois que la grille est ouverte, pendant tout le temps de l'exposition, de façon indépendante.
Donc là, vous le tentez, ça a déjà été fait ailleurs, je suppose.
Oui, effectivement.
Et puis il y a des échos, il y a des retours, peut-être des gens s'arrêtent alors qu'ils ne se seraient pas arrêtés.
Exactement, effectivement, on voit, en fait, on a vu dans la mesure où on a installé cette grande baie vitrée à l'entrée de Pamela, que en fait les gens passent et regardent, se questionnent, etc. sont curieux, et on avait envie de pouvoir leur offrir aussi quelque chose à voir, alors qu'il n'y a pas forcément de médiation ou de grosse exposition dans l'espace, et ça donne aussi la place aux artistes de montrer leur travail quand nous on travaille dans l'atelier derrière. On a mis en place un dispositif avec un texte, avec un cartel, etc., de façon à ce que les visiteurs, visiteuses puissent s'emparer d'une œuvre sans avoir besoin de notre présence, en fait, tout simplement.
Donc, le vernissage, c'est ce soir, juste avant, donc on est le 2 février, et c'est jusqu'à quand ?
Et c'est jusqu'au 3 mars, ça dure un mois.
Ah oui, donc il faut se dépêcher, mais comme c'est diffusé rapidement, tout le monde va venir en rue Sainte-Catherine.
Oui.
Donc, vous êtes un peu stressée en vous disant est-ce que ça va marcher ou pas du tout ?
Non.
On verra ce qui se passe.
Voilà, on verra ce qui se passe. Après, de toute façon, les gens viennent et sont curieux. Et après, on a de toute façon des habitués, des...
Ça commence à être bien, à être connu.
C'est un nouveau format, mais finalement, c'est un vernissage.
Exactement. Je vais juste vous demander, Margot, avant de donner la parole à Anna, de rappeler les six.
Alors, les six. Donc, nous avons Steven Le Priol, Audrey Martin, Margot Simkovic, Lucille Diacono, Lydia Rump et moi-même, Margot Fontaine.
Eh bien, merci.
Voilà.
Donc, nous allons donner la parole à Anna après une musique que vous êtes en train de chercher. Donc, je ne l'annonce pas, ce sera la surprise. Anna, rebonjour.
Bonjour, rebonjour.
Alors, on va essayer de ne pas trop se répéter avec ce qu'on avait dit au centre de documentation du Carré d'Art, mais cette résidence a été quelque chose de très important pour vous. Hein. Je me souviens, vous aviez dit, j'ai eu accès à des livres, à des catalogues que je n'aurais jamais eu la possibilité de voir.
Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que de travailler sur le livre juste ensuite à la résidence, ça a donné une autre dimension au travail. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce livre dans les mains. Et petit à petit, je suis en train de le redécouvrir autrement. Ah bah, maintenant, l'exposition est terminée depuis un mois. Et du coup, je suis en train de continuer le travail et voir où ça va m'amener. Donc, c'était une étape très importante, oui.
Vous avez d'autres projets de résidence? Non, au Carré d'Art, c'est qu'une fois. Hein.
Oui, au Carré d'Art, c'est qu'une fois, ouais. Oui, je suis invitée en résidence au mois de juin prochain. Cette fois-ci, ça va être en Suisse, à La Chaux-de-Fonds. C'est en fait une résidence...
C'est la capitale de la montre, je crois. Non,
oui, c'est ça. Alors, ça ne sera pas autour de l'horlogerie, notamment. Mais ça
vous
sera...
donnera peut-être des idées.
Peut-être, oui, oui. Alors, c'est quelque chose d'assez particulier parce que je suis invitée en résidence dans un lieu qui s'appelle Club 44. Et en fait, c'est un club de conférences, de rencontres pluridisciplinaires qui existe depuis 1944. Donc cette année, c'est du coup les 80 ans qui sont fêtés. Et en fait, je suis invitée en résidence là-bas pour un peu fouiller dans les archives de ce Club 44. Ce qui fait qu'ils ont des archives en fait sonores aussi, notamment. Donc toutes ces conférences ont été enregistrées. Et il y a eu des invités très reconnus et prestigieux.
Il y a un thème sur votre résidence, vous devez fournir quelque chose à la fin.
En fait, oui, ça sera une exposition à la fin qui va être au mois de septembre. Je ne sais pas exactement encore quand, mais pour l'instant, j'ai une carte blanche. Donc, je vais y aller, je pense, au printemps, une première fois pour un repérage.
Oui, j'allais vous demander, vous ne connaissez pas encore.
Non, je ne connais pas. Mais toutes les archives elles sont sur le site internet du Club 44. Donc, je suis en train, petit à petit, déjà un peu fouiller ce sens-là. Et j'ai hâte de voir un peu plus les archives plus plutôt papier, documents, tout ce
oui,
genre de choses.
Le papier, c'est votre, voilà, c'est votre c'est passion. Ça. C'est pas trop difficile de se dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être dans la suite? Est-ce que je vais faire quelque chose de nouveau? Est-ce que ça sera la surprise? Comment vous travaillez? Parce que, bon, si nos auditeurs n'ont pas écouté la précédente émission... présentez-vous rapidement, Anna.
Oui, alors je suis artiste, je viens de Suisse, plutôt suisse-italienne, et j'ai fait plutôt un parcours à niveau de la photographie d'abord, et puis depuis une dizaine d'années, je me suis un peu éloignée de ce médium, tout en réfléchissant à ce que c'est une image, à me donnant des questionnements comme ça autour de la problématique liée aux images dans notre société. Donc du coup, des fois, ça peut prendre des formes très différentes. Ça peut être notamment en ce moment des peintures que j'essaye de détourner dans l'idée de recréer une espèce de code inventé à ma façon.
L'imprimerie est très présente chez vous.
L'imprimé est très présent. Donc, le pliage aussi, notamment. Mmh. Donc, tout le travail que j'ai fait au centre de documentation en carré d'art, c'était vraiment autour de cette question du lien entre le livre et le tissu. Donc, du coup, l'histoire du pliage, toutes ces choses-là, que je vais continuer à sonder.
À fouiller.
Par ailleurs, autrement, mais je ne vais rien dire pour l'instant, parce que c'est des choses auxquelles je suis en train de réfléchir, mais plutôt des projets qui vont faire suite à ça. Et là, je pense que ça sera de toute façon une continuité, parce que je pense que c'est compliqué de travailler autrement. Disons, c'est, quand on est sur des pistes, du coup, même si on a affaire avec une archive qui est très différente, notamment du fonds de documentation sur l'art contemporain, bah forcément, on a des entrées qui sont propres à la personne. Donc, du coup,
Alors, vous avez prévu d'emmener du matériel,
pour l'instant, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai été invitée par quelqu'un, par une commissaire avec qui j'ai déjà travaillé, qui s'appelle Marie Dupasquier, qui est basée entre Zurich et Berlin. J'avais travaillé avec elle surtout sur un projet qui a eu lieu en 2016 à la Biennale de la photographie de Mulhouse, et sur lequel on avait un peu travaillé ensemble. Et ensuite, j'avais été en résidence. Elle a un espace qui s'appelle Display à Berlin. Et donc, je vais travailler avec elle. Et donc, du coup, on a une façon de travailler déjà un peu qui s'est un peu installée.
C'est pas l'inconnu.
C'est pas totalement l'inconnu. Donc, je me laisse aussi un peu porter par ça, parce que je la connais dans le travail. J'apprécie beaucoup sa façon de travailler.
Donc, c'est très stimulant.
C'est tout à fait, ouais. Donc, du coup, il y a cette histoire d'archives qui m'accompagne. Et après, à voir comment je vais pouvoir trouver une façon. Mais ça, voilà, je me laisse aussi la liberté de...
3 mois, c'est court, c'est long, c'est ce qu'il faut.
Bah après, là, ça va être au mois vraiment entier en résidence à la Chaux-de-Fonds, donc le mois de juin. Je vais un peu répéter la même façon que j'ai eu l'an passé ici à Nîmes. Et je vais avoir le temps, du coup, l'été, comme l'an passé, j'ai passé du temps sur le livre. Du coup, ça sera un peu pareil, mais je ne sais pas encore.
Vous faites un calendrier tout de même, parce que s'il faut faire une exposition, oui, vous ne pouvez pas être dans la réflexion sans arrêt. Il y a un moment, il faut s'y mettre, quoi.
Ah oui, bien sûr, oui. Mais le travail des artistes, on travaille de beaucoup d'organisations, il ne faut pas penser.
Non, mais l'idée de l'artiste est complètement farfelue.
En fait, non, c'est des stéréotypes, mais c'est pas vraiment comme ça.
Bien sûr. Et puis je me souviens au carré d'art, ce qui était très intéressant, vous avez parlé, Margot, des pliages, qu'il y avait toutes les étapes qui étaient affichées. Et c'est très intéressant pour nous, néophytes ou spectateurs, ou regardeurs, comme on dit maintenant, de voir un peu, d'essayer de comprendre comment ça chemine. Je pense que Margot, dans votre travail, c'est pareil. En fait, il y a une part d'imprévu, il y a une part de hasard. Donc, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous allez quelque part, c'est ça?
Oui. Et puis là, dans les pièces d'Anna, vraiment, j'invite les regardeurs à venir les découvrir. On voit vraiment, en fait, une matière qui se crée. Et en fait, on retrouve en fait, une histoire de l'œuvre, en fait, quand on la regarde bien, dans ses peintures, en fait. Cet aspect, justement, de pliage, ce que ça a été potentiellement avant, pour devenir ce que c'est maintenant. Et voilà, ça, c'est effectivement intéressant. En fait, quand on s'y penche vraiment, on voit toutes ces étapes dans le travail, en fait. Et ça, c'est intéressant, et notamment intéressant dans le travail d'Anna.
Alors, nous allons venir à cette exposition plus précisément. Avant, vous avez choisi comme musique, Anna, une musique, j'arrive pas à me relire,
Alva Noto.
Alva Noto. Où j'ai pas mis mes lunettes. Alva Noto. Je vous laisse le présenter.
C'est un musicien allemand qui a plusieurs identités. Il est aussi artiste. Donc en fait, sous le nom de Alva Noto, il est plutôt compositeur de musique, on va dire électro, ou disons en tout cas voilà, de ce genre-là. Donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de collaborations aussi avec d'autres musiciens et d'autres artistes, notamment visuels aussi.
Et il vous aide à travailler.
Et en fait, oui, c'est notamment c'est ce genre de musique que j'aime écouter en travaillant. Ouais.
Ça, on l'entend, on l'écoute. On l'entend ou on l'écoute?
Les deux, je pense. C'est partiellement...
Ouais, mais ce côté répétitif, parce qu'on disait, l'artiste travaille beaucoup, il faut vous aider, il faut vous stimuler. Il y a un côté j'allais dire répétitif, non, j'allais dire monotone, et c'est un peu péjoratif, mais il y a tout de même un côté répétition.
Méditatif. Oui, je pense que c'est une discipline aussi. C'est une discipline. Hein. Ouais. Je pense que cette histoire de musique aussi, de rythme comme ça, m'aide aussi à rester sur.
Vous concentrer.
Ouais, voilà.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous passons là vraiment à l'exposition souple qui est à chez Pamela, donc jusqu'au 3 mars. Et donc Anna Mescaris, là on parle de ces deux, on va dire, de grands formats, de grands tableaux, de grandes pièces, comment vous dites?
Alors oui, c'est vrai que je dirais deux grandes pièces, même si après chacun décidera ce que c'est vraiment.
Donc en vitrine.
Oui, c'est deux pièces que j'ai réalisées dans le cadre d'une résidence aussi, notamment, que j'ai fait sur invitation du Centre d'art Le Lay, du coup le Centre d'art contemporain d'Albi, avec le directeur qui s'appelle Antoine Marchand, qui m'a invité l'an passé à faire une résidence un peu particulière, qui était entre un peu production, un peu médiation avec des collèges du Tarn. Et donc en fait j'étais en résidence sur plusieurs mois, dont quelques temps passés au musée du textile, qui est le musée départemental du textile à la Bastide de Roiroux.
Oui, il y a vraiment un lien avec le tissu, hein.
Oui, c'est ça.
C'est très présent.
En fait, Antoine voulait travailler avec moi, voulait trouver un format de résidence qui pouvait m'intéresser. Et moi, ça fait depuis quelques années que j'étais dans cette envie de textile et tout ça. Et du coup, on a trouvé cette possibilité avec le musée du textile. J'ai été accueillie pendant quelques temps à fouiller aussi un peu dans tout ça.
Ça fait penser un peu aux boutis, ça fait penser un peu à des puzzles, ça fait penser un peu...
Oui, il y a cette idée de motif, parce que dans le tissage, ça fait un moment que j'en fais moi artisanalement, mais du coup j'ai eu accès aussi à tout ce qui est un peu la conception du tissage à niveau mécanique, parce que là-bas ils ont des machines.
Oui, la technique, vous aimez, voilà. Hein, vous aimez la technique.
J'aime bien cette logique en fait, du soit le fil passe, soit le fil passe pas, et donc comment tout ça est conçu.
Ça, vous ça m'intéresse vous-même beaucoup. Vous-même un peu
Oui, j'ai plusieurs métiers à tisser et du coup, j'aime bien faire ça.
Ça vous permet de mieux comprendre comment ça s'organise, comment les couleurs se mettent en place ou...
En fait, j'ai l'impression que c'est plus une continuité d'une façon de penser. C'est comme si on mettait en place une espèce de conception du monde à travers le tissage, en fait.
Et oui, j'ai l'impression qu'on peut faire des liens. Il n'y a pas un carton à suivre, il n'y a pas un motif à suivre.
Alors, il y a les deux choses. Si, dans le tissage mécanique, c'est très mécanique. Donc, il y a cette histoire de carton à suivre, en effet, avec plus ou moins de liberté. Là, j'ai aussi créé une pièce en jacquard. Ça veut dire que c'est plutôt du coup une image qui est traitée d'une façon à être lue par un ordinateur, et l'ordinateur après il va la redonner pour en fait c'est comme si c'était imprimé mais c'est tissé. Donc c'est très flexible et ça permet de faire des arrondis, alors que moi avec mes métiers à tisser je suis très limitée, donc c'est beaucoup en effet là la répétition elle est encore plus visible, hein.
Oui, en fait de la tradition avec le mécanique à la technologie la plus moderne, mais nous on voit pas tout ça, c'est vous qui le voyez quand vous travaillez.
Oui, c'est ça, après ça, c'est des choses qui m'intéressent. Après, je m'arrête pas forcément que à ça, donc je me laisse beaucoup de liberté aussi. Et je pense que les pièces que j'ai réalisées, du coup, l'an passé, qui sont présentes ici et que j'ai montrées au mois de mai, juin, au musée du textile, du coup, parlent beaucoup de ça aussi.
Sont très représentatives de vos recherches.
Oui, c'est ça. C'est une étape que, du coup, je continue à sonder, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de lâcher prise, mais en même temps de contrôle et tout ça, ce qui m'intéresse beaucoup. Ouais.
C'est tout ce qu'on essaye tous de faire. Hein.
Oui.
À la fois d'être libre et en même temps d'avoir une sorte de ligne, quoi. Donc, c'est pas facile. Alors, peut-être nos auditeurs vont venir, puisque c'est en vitrine, donc il n'y a pas assez contraintes d'horaire, vous nous l'avez expliqué, Margot. Mais si je vous demande de décrire l'une et l'autre, comment vous faites? D'abord, est-ce que vous leur avez donné un titre?
Oui, le titre, c'est assez, on va dire, paradoxal, provocateur aussi. C'est 1-0-1-0-1-0-0-1. Donc, en fait...
Oui, je vous ai demandé comment on le disait, si c'était 1 000 000.
Non, c'est plutôt l'idée de...
Répétition.
D'en fait, on est dans un monde quand même... qu'on essaie de décomplexifier de cette binarité, donc voilà, et donc on essaie de mais en même temps on est toujours confronté à cette chose là où soit le fil passe, soit le fil passe pas, soit l'électricité passe, soit l'électricité passe pas, donc
il y a des pannes, il y a des cassures,
voilà, avec tout ça il y a des défauts aussi, et donc j'ai essayé avec d'en fait de jouer sur ça et de me dire en fait essaie de recréer une espèce de protocole qui permet de presque t'amuser autour de ça et de dire en fait tout ça c'est vain et qu'en fait on peut pas en fait penser comme ça, donc même si on essaie de réfléchir comme ça
c'est pas possible,
c'est, ouais, voilà.
C'est trop contraignant,
voilà,
et
c'est ça.
C'est et une donc, atteinte à notre liberté,
voilà, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc c'est vraiment un clin d'œil, on va dire un peu une critique à ça, quoi.
Donc ça, c'est la première pièce.
Les deux, en fait.
Les deux,
parce que c'est pas vraiment... C'est pas un diptyque, mais les deux, elles ont été faites pratiquement en même temps. Et un peu sur la même idée de... Comment dire? De découpage et de recoudre et découpage plusieurs fois. Et donc, au début, c'est des monochromes.
Oui, j'allais venir aux couleurs, justement.
Au début, c'est... En gros, c'est 4 monochromes. Et que je réalise par terre, donc je peins par terre sur une bâche, ce qui fait que en séchant, je suis debout et je peins,
d'accord,
voilà. Et en séchant, en fait, il y a des traces qui se créent. Il y a des réserves aussi qui se créent par rapport au fait que il y a de l'air qui s'engouffre dans la bâche, et du coup il y a des endroits où la peinture ne passe pas. Et donc, en fait, il y a cette matière qui devient presque une espèce de deuxième peau. Il y a quand même cette idée-là aussi qui est très présente dans ces deux peintures, comme une espèce de matière qu'on ne sait pas trop si c'est une matière animale, si c'est quelque chose d'humain, de non-humain, si c'est quelque chose complètement qui vient d'ailleurs aussi.
Oui, c'est sûr que moi, en arrivant, comme c'est derrière la vitre, on n'a pas cette palpation, donc on peut... Enfin, là, déjà, on n'y touche pas, hein, même si on pouvait, mais on a un peu de mal à... Comme vous dites, on a un peu de mal à se dire c'est quoi, c'est du tissu, c'est de la peinture, c'est voulu, quoi.
C'est
votre propre interrogation que vous...
Oui, c'est des recherches aussi de matière, de façon de faire et tout ça. Et du coup, tout ça, ça se retranscrit après, suite à des longues réflexions. est-ce que je laisse comme ça? Est-ce que je Et petit à petit, en fait, je travaille pas mal aussi avec des dessins, des préparatoires et tout ça. Je me suis dit, mais en fait, ça serait intéressant déjà d'essayer avec une, voir qu'est-ce que ça donne si tu coupes, si tu recoupes. Parce qu'il y a deux processus, il y a plusieurs processus, ça prend du temps, en fait, tout ça. Parce que ça sèche et tout, donc il y a quand même... Puis en fait, c'est assez beau parce qu'à un moment donné, quand ça sèche, du coup, on travaille sur le verso. Et disons, on travaille, pardon, sur le recto, mais en fait, c'est le verso que je montre.
Ah, d'accord.
Donc, ce que le spectateur et la spectatrice voient, c'est le verso de la peinture.
Mmh.
Et donc, du coup, le recto, il est caché, donc il est derrière, et c'est pas ça que j'ai envie de montrer. Et donc, c'est comme si aussi je sabotais ce que moi-même j'ai fait. Et cette chose-là, bah, ça m'intéresse depuis toujours.
C'est un peu vicieux, ça.
Je pense que c'est le fait aussi de travailler avec des choses, du coup, que j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui les a faites. On peut aussi, comme au centre de documentation, à travers des livres, que ce n'est pas moi qui... C'est un peu toujours le même geste, où en fait, j'essaie d'être de moins en moins présente dans les choses. D'accord. Et en même temps, après, je viens faire cet acte de découpe, qui est quand même assez violent, parce que je coupe quand même la toile. Et je la recoupe, et après je la recoupe à nouveau, j'inverse, avec une espèce de protocole d'inversion.
C'est là où
de...
on est dans la tapisserie, où on est dans, oui, totalement. Dans le boutique, oui. On est dans le...
Et c'est là que du coup il y a cette espèce de code pas possible qui se met en jeu, quoi.
Alors je me pose la question entre recto verso, là je les ai vus qu'en vitrine, je ne suis pas passée derrière, mais on ne peut pas passer derrière là. Ah, on peut pas.
Non.
Donc, vous nous dites tout de même pour nous, commencez derrière maintenant.
Enfin, derrière, en gros, on peut imaginer que la peinture, elle est quand même beaucoup plus présente parce que c'est le recto.
C'est
du
le
coup.
Recto, ouais.
Du coup, il y a moins cet effet de, on va dire, de réserve fait par le pliage ou par le fait que ça a séché sur une bâche. Et du coup, il y a des effets de peau, quoi. Mmh. Et donc, il y a comme un peu la peinture qui s'enlève alors que dans le verso, il n'y a pas. Mmh. Et après, c'est un travail de couturière.
Donc, oui, oui.
C'est des plis. C'est des coutures à plat. Et du coup, les plis, ils se... On veut dire, les plis, ils sont redressés, et du coup, voilà.
Vous êtes partie d'une bâche de quelle dimension? Parce que si vous coupez, recoupez, etc., ça fait un peu peau de chagrin, quoi, il faut...
Ouais, je crois que là, c'était 4 monochromes qui faisaient... ça devait faire, je sais pas, 120 sur 160, quelque chose comme ça.
Et là, une fois fini...
Et là, les deux, du coup, 4 morceaux, disons, 4 pièces comme ça. Et là, elles font 140 sur 180, je crois, si je ne me trompe pas.
Donc
il y a forcément de, on va dire, de la perte. Mais bon, c'est aussi cette question-là qui m'intéresse, de savoir... comment faire avec tout ça, en fait. Comment créer des choses avec des choses aussi, parce que des fois j'utilise aussi des peintures que j'ai fait et que finalement que je me dis au lieu de la laisser toute seule, tu peux la réintégrer dans un processus, on va dire, dans un protocole comme ça, et du coup ça vient intégrer quelque chose.
Ouais. Donc vous l'avez dit, un artiste, c'est pas un farfelu complètement dehors du monde. C'est très, ça m'avait déjà beaucoup marqué au Carré d'Art, c'est-à-dire c'est toute une réflexion, c'est tout un cheminement. Eh ben merci à toutes les deux, merci à Pamela, merci de travailler justement dans cette visibilité des artistes. Et j'espère que ça va bien marcher.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Pour partager vos événements à l'antenne. Agenda@radioalliance-plus.fr